franceinter.fr. La revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Patricia et bonjour à tous. Quelqu'un est-il pour quelque chose? C'est le titre de la chronique de Bruno Frappa dans La Croix ce matin. À la suite de la manifestation parisienne qui s'est tenue mardi dernier contre la loi travail, il a ramassé une pancarte abandonnée sur un trottoir. Petite pancarte qui, selon lui, résume bien la France d'aujourd'hui. Recto verso, le même mot, inscrit en lettres capitales, trois lettres, le mot « non ». Sans plus de précision, mais demande-t-il, est-ce bien nécessaire de dire à quoi l'on dit non quand on a envie de dire non à tout? On dit non à la loi El Khomri, non au gouvernement qui refuse d'écouter le peuple, non au patron, non au temps gris qui plombe l'atmosphère. On dit non aux mensonges du libéralisme, non à l'argent, à la misère, non à l'article 49.3, déni de la démocratie. On dit donc non sans cesse. Mais comment donc choisir le oui quand tout nous refuse, tout nous invite à refuser la société qu'on nous propose? Pas une réforme qui vaille et pas un seul homme politique qui soit en mesure d'entraîner notre adhésion. Pas un jour sans mort, sans angoisse, sans mauvaise nouvelle. Mais s'interroge Frappa, si nous organisions collectivement le camp du oui à quelque chose, un cortège des gens heureux, si l'on rassemblait toutes ses forces, quelle joie ce serait pour le pays. Et puis à la fin d'une manif, on pourrait alors ramasser une pancarte avec... En gros, écrit des deux côtés, trois lettres, le mot « oui ». Le jour où l'on célèbre l'anniversaire du discours de l'homme qui a dit non, Bruno Frappa rêve donc d'un grand mouvement qui dirait oui, un vœu pieux, de toute évidence. Mais oui ou non, c'est bien la question qui agite la presse ce matin. On peut même dire que that is the question, Patricia.
Are you speak English, yes or no, à l'Europe. C'est en tout cas la question à laquelle devront répondre les Anglais cette semaine.
Une campagne bouleversée, campagne du référendum bouleversée par l'assassinat de la députée pro-européenne Jo Cox, ainsi que le titre Le Monde. Le Royaume-Uni est plongé dans un état de choc et même si le mobile du tueur n'est pas encore déterminé, on sait qu'il était un sympathisant des mouvements d'extrême droite, raison pour laquelle l'indépendant estime qu'il s'agit là d'un assassinat politique, un assassinat qui pourrait rebattre les cartes, alors que les sondages continuent de donner une nette avance pour les partisans du Brexit. Le référendum a donc lieu jeudi, et ce matin, le quotidien britannique The Times se déclare favorable à un maintien du Royaume-Uni dans l'Union. Dans un éditorial intitulé « Refonder l'Europe », le journal explique que la meilleure issue de ce référendum serait une nouvelle alliance entre les nations souveraines de l'Union, alliance basée sur le libre-échange et les réformes et guidée par la Grande-Bretagne. De son côté, Libération dresse l'inventaire de ce que coûterait une sortie de l'Union du Royaume-Uni. Au niveau politique, un changement de Premier ministre et des tensions avec l'Écosse qui pourrait être tentée de réclamer de nouveau son indépendance. Au niveau économique, une crise à la City qui pourrait décider de délocaliser ses banques, sans doute à la clé de nombreuses suppressions d'emplois, une hausse du chômage et puis une vraie perte en termes de budget pour le fonctionnement de l'Europe. On comprend que Libé est clairement en faveur du non au Brexit, ou pour le dire positivement, en faveur du oui au maintien des Anglais dans le giron européen. Oui ou non, la rencontre entre Philippe Martinez et Myriam El Khomri a-t-elle servi à quelque chose?
C'est l'une des autres questions posées par la presse ce matin.
Et si, selon Le Parisien, cette rencontre était surtout destinée aux caméras, les éditorialistes y voient tout de même une petite avancée. Denis Domain dans La Nouvelle République. Entre la CGT et le gouvernement, la rupture n'est pas définitivement consommée. C'est cela qu'on a pu observer hier. Nous en sommes plutôt au divorce par consentement mutuel. Jean-Marcel Bougreau, La République des Pyrénées. Derrière les postures, les coups de menton des uns et des autres, on travaille à l'élaboration de pistes de compromis. Objectif, et c'est ce qu'on a vu hier, permettre aux belligérants de signer un cessez-le-feu sans qu'aucun d'eux ne donne le sentiment d'avoir mordu la poussière. Sébastien Lacroix dans L'Union. Hier a vraiment été un grand jour puisqu'officiellement le dialogue social a repris. Philippe Martinez s'est rendu chez Myriam El Khomri. Le premier a énuméré ses propositions à la seconde qui a dit qu'elle les étudierait. Un tel dialogue de sourds est le signe que d'indenses discussions que nous n'entendons pas ont lieu en sourdine. C'est ce qu'on appelle, écrit-il, le dialogue social à la française. Réponse oui, ça progresse, même si en apparence, c'est non. Et la politique à la française, C'est la mode des primaires, une primaire loyale et représentative. C'est ce que va proposer Jean-Christophe Cambadélis aujourd'hui au Conseil national du PS. Il l'explique dans les colonnes de Libération. Il souhaite que François Hollande participe lui également à cette primaire organisée à gauche. Mais c'est le scepticisme qui domine dans les journaux. Franchement, personne n'y croit. Tout le monde dit non. François Hollande ne se présentera pas à cette primaire que souhaite organiser Jean-Christophe Cambadélis, excepté peut-être, il y en a un qui croit, qui a en tout cas décidé de jouer le jeu, c'est le fondeur Gérard Filoche qui annonce sa candidature à la primaire sur le site internet du Point. De toute façon, dit-il, même une chèvre gagnerait contre François Hollande. Autrement dit, pourquoi pas lui ?
Deux histoires financières dans les journaux ce matin.
Mauvaise surprise pour la ville de Cognac. Une facture de 134 000 euros à cause d'une chaudière mal réglée. L'histoire est à lire dans la Charente Libre durant tout le mois d'avril. Une des chaudières de la mairie a appelé automatiquement le numéro surtaxé d'un service de maintenance afin de signaler une panne. La commune a saisi la justice contestant le montant de la facture, sachant qu'a priori cette chaudière de Cognac n'était pas alcoolisée. Autre affaire de gros sous. Mais là, la facture est encore plus salée. Le magazine Acteur Public fait état des difficultés financières de l'ENA, l'École Nationale de l'Administration. L'an dernier, le déficit de la prestigieuse institution qui forme les élites françaises s'élevait à plus d'1 800 000 euros, montant très au-dessus de celui de l'année précédente. Des mesures d'économie seraient actuellement à l'étude, notamment la baisse du nombre des élèves. Faute d'argent, moins d'énarques, certains sans doute applaudiront. Au registre social, on notera par ailleurs cette nouvelle grève annoncé chez les pilotes d'Air France, ainsi que le précise le Figaro Echo, ce sera du 24 au 27 juin. Et puis de son côté, la presse italienne ironise ce matin sur la grève de ses contrôleurs aériens qui a eu lieu hier. Des centaines de vols annulés, de nombreux retards, mais uniquement l'après-midi, juste pendant le match Italie-Suisse de l'Euro. Une grève qui portait sur le régime des retraites et qui a donc commencé aux alentours de 13h pour se finir à 17h après le coup de sifflet final du match. Lundi déjà, les bus et les métros de Rome avaient tourné au ralenti. Là encore, en raison d'une grève du personnel et là encore, pendant un match de l'Italie, c'est bizarre, l'Italie qui l'a emporté 2-0 face à la Belgique.
Et pour la France, le prochain match, c'est demain soir face à la Suisse.
Et pour l'occasion, Didier Deschamps a prévu de faire au moins 4 changements objectifs pour les Bleus, conserver la première place de leur groupe, ainsi que l'explique l'équipe. 4 joueurs qui étaient remplaçants contre l'Albanie seront donc cette fois titulaires. André-Pierre Gignac, Antoine Griezmann, Johan Caballé et Paul Pogba, celui qui assure la main sur le cœur que lors du dernier match, après le deuxième but marqué par Dimitri Payet, c'est une sarabande qu'il a dansé sur le terrain. Alors que les images montrent une sorte de bras d'honneur en direction de la presse depuis 3 jours, tous les experts s'interrogent sur l'interprétation de ce geste. Un geste brouillon, estime Camille Belsoeur sur Slate.fr, qui invite du coup le milieu de terrain tricolore à revoir sa chorégraphie afin de réaliser à l'avenir des bras d'honneur plus réussis. Les Russes, c'est asile qu'ils ont joué mercredi face à la Slovaquie. Puis le lendemain à Lens, il y eut Angleterre-Pays de Galles. Mais alors, quel bilan tirer de cette semaine un peu folle, s'interroge la Voix du Nord. Réponse, une région qui se réveille avec la gueule de bois, car les gobelets de bière ont tous été vidés. Les Russes, qui ce week-end joueront cette fois à Toulouse face au Pays de Galles, faut-il avoir peur des hooligans, questionne la Dépêche du Midi. La réponse est dans la question, car le match est classé à risque par la préfecture. Définition de hooligan, anglicisme russe. Casseur de foot, supporter multisport, spécialisé dans le jet de bouteille et le lancer de barres de fer, c'est l'écrivain Camille Laurence qui signe cette explication dans sa réjouissante chronique de Libé ce matin. Chronique intitulée « Petit footictionnaire par une nulle ». Série de définitions d'une non-spécialiste, définition de ballon. Plus lourd qu'une bille, plus léger qu'une boule, mais moins gros qu'un melon, voire Ibrahimovic. Définition de lucarne, fenêtre dont il s'agit de casser le carreau sous les acclamations, le responsable n'est jamais puni. Définition de passe, bonne ou mauvaise, voire Emmanuel Macron ou bien François Hollande. Définition de prolongation, dernière bière pour la route. Je crois que c'est celle que je préfère à ce petit footictionnaire, je dis donc un grand oui.
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.